se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, l'iPhone 12 64Go reconditionné est à seulement 299€.
À ce prix-là, ça me fera un super cadeau de fête des mères.
En donnant une seconde vie à un produit reconditionné en France par les experts PRS.
Elle est pas belle, la vie ?
Auchan, avec plaisir. 50€ de remise immédiate sur l'iPhone 12 64Go reconditionné grade B, soit 299€ au lieu de 349. Valeur du DAS sur Auchan.fr. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Kit main libre recommandé.
RMC, les grandes gueules.
Nouveau sujet de discussion qui va concerner la jeunesse, les amis. La jeunesse, un élève sur deux ne connaît pas la date de la Révolution française. C'est ce que révèle l'Organisation de coopération et de développement économique qui parle de baisse générale du niveau des élèves.
Oui, seulement 54% des 16-25 ans sont capables de dire que la Révolution française a eu lieu en 1789. Seulement 40% peuvent dater la chute du mur de Berlin en 1989. Et moins de 25% savent que l'État d'Israël a été créé en 1948. 40% des enfants, enfin des jeunes interrogés, n'ont jamais entendu le terme « rafle du Veldiv ». 32% ne savent pas ce que veut dire « solution finale ». Et un jeune sur cinq, c'est peut-être ça d'ailleurs le plus dangereux, dit avoir des doutes sur l'histoire, l'existence de la Shoah. Jeune sur cinq. Alors, je me tourne vers la prof d'histoire que tu es, Barbara Lefebvre. Que foutu ? Ces jeunes sont à l'école. Ils ont des profs d'histoire et ils ne sont pas capables d'en savoir le minimum. En fait.
Et il y a même, je t'en rajoute une qui est pas mal aussi, 31% seulement savent l'année du droit de vote des femmes. Oui. En France, quand même. Pas
les
mal
femmes
aussi
ont le droit de vote ?
Oui, oui.
Il vient de l'apprendre.
Surtout
la date, la date.
La date, eh bien, 1944.
Oui. Octobre
le général 44. De Gaulle, oui. Qui sera aussi le père de la pilule, c'est un ami de l'émancipation des femmes.
Exactement.
Ce que n'a pas toujours été la gauche française.
Exactement.
Bon,
mais
alors,
justement,
quand même sur ces dates,
justement, non, mais c'est intéressant, c'est intéressant parce que ces jeunes 16-24 ans, là, oui, donc, savent pas le droit de vote des femmes. Mais ils sont tous vachement féministes. Ils connaissent pas la date de création de l'État d'Israël, mais par contre, ils vont à République. Célébrer les résistants du Hamas ou de raconter n'importe quoi de la mer au Jourdain, ils ne savent rien du tout à la géopolitique ni même à la géographie tout court. Ils t'expliquent que l'État de Palestine, ça existait avant 48. Bon bref, ça patauge dans la smoule tout ça. Le problème, ce qui est intéressant dans l'étude quand même, c'est que c'est aussi corrélé à l'activité de lecture en soi. C'est-à-dire qu'on remarque que les élèves qui par ailleurs lisent au moins trois, je crois que c'est au moins trois livres par mois ou par trimestre, je ne sais plus, ont des meilleurs résultats en culture générale que ceux qui ne lisent pas. Et oui, il y a comme une légère corrélation entre des gens qui lisent et qui ne se contentent pas de s'informer sur Internet, puisqu'on a plus de 40% de ces jeunes interrogés qui se renseignent exclusivement sur les réseaux sociaux et Internet. Ouais. Donc
c'est peut-être ça aussi le problème.
C'est QFD. Maintenant, moi, je vais vous dire, j'ai entendu donc des commentaires sur ce sondage, cette enquête qui est édifiante. Et des gens qui disent « oui, c'est normal, on n'enseigne plus l'histoire, on n'enseigne plus la chronologie, etc. » C'est faux. On enseigne l'histoire d'une façon chronologique. Il y a des dates, je veux dire 1789, 44, les dates qui ont été testées.
1789, c'est dingue que seulement 54% des jeunes connaissent
cette date
de 1789.
Non, parce que les dates qui ont été testées dans cette enquête, on les enseigne. Ben oui. Donc, la question qui est posée est celle-ci. Et moi, j'ai la réponse. Comme aujourd'hui, quand vous êtes en sixième, c'est à peu près là que ça commence l'enseignement de l'histoire. Vous commencez en sixième, vous finissez l'année de sixième, vous avez 5 de moyenne en histoire parce que vous n'apprenez pas vos leçons, parce que l'histoire, ça ne sert à rien, quoi, ça va me servir. Comme je dis toujours à mes élèves, c'est sûr, si tu vas à la boulangerie, tu ne vas pas discuter avec la boulangère de la philosophie des Lumières. Mais ça te sert pour pouvoir justement être ouvert, aller plus tard dans d'autres milieux sociaux et pas passer pour le gars qui est au bout de la table et qui n'a rien à dire et qui ne comprend même pas de quoi on parle. C'est de la culture générale. Donc, comme en fait, on passe de la sixième à la cinquième en n'ayant pas jamais appris ses cours, hein, en se ramassant des deux, des trois, on s'en fout. En cinquième, pourquoi on apprendrait ? Puisqu'à chaque fois que j'apprends pas ma leçon, je passe quand même dans la classe supérieure, je ne suis jamais sanctionnée. Donc en fait, il y a une prime à l'ignorance. Il y a une prime même, maintenant...
En gros,
ce n'est
pas grave de ne pas savoir.
Il y a même, sur les réseaux sociaux, la prime de la popularité à l'ignorance. C'est-à-dire que quelque part, On est populaire quand on est vraiment d'une ignorance crasse. Mmh. Parce que c'est ça qui est marrant, c'est de rien savoir, parce qu'on est sur une autre, dans un autre monde, on n'est pas dans le monde des profs, on n'est pas dans le monde des parents.
C'est pas un peu relayé à la télé, parfois, ça aussi, ce côté « c'est pas grave, je sais rien, j'ai des bêtises ».
Je ne ciblerai personne, mais quand vous avez des animateurs télé qui font des millions d'audiences tous les soirs et qui, eux-mêmes, ne savent même pas parfois faire les liaisons et accorder les participes passés quand ils parlent, c'est sûr que c'est pas une image extrêmement valorisante, et je vous parle même pas de tous les influenceurs. Donc attention, c'est pas tant l'enseignement de l'histoire que la culture de l'ignorance et le fait que l'école ne sanctionne plus rien. C'est-à-dire, tu es nul, eh ben tu passes dans la classe supérieure, il y a pas de problème, et tu te retrouves au bac en n'ayant rien appris. C'est pas la faute des profs, c'est la faute des élèves. Excusez-moi.
Joël, peut-être qu'on a laissé aussi tomber un peu le par cœur, c'est-à-dire que c'était un peu bête et méchant, mais je me souviens, on avait en histoire, c'est un peu le tableau des dates.
Oui. Exactement.
C'est-à-dire qu'on apprenait les dates par cœur, qui étaient les repères, comme la table de multiplication, et puis derrière,
quand
on maîtrisait les dates,
c'est ça.
Si tu veux, derrière, on disait, bon, allez, maintenant, on en parle, et puis ça restait avec des moyens mnémotechniques.
C'est exactement ce que j'ai dit hier à mes quatrièmes, à qui je rendais leur contrôle sur la philosophie des Lumières, j'ai mis des 20. Et puis j'ai mis des 2, des 3. Et j'ai dit à mes élèves, j'ai dit, je sais que vous, soi-disant, vous êtes des quatrièmes et apprendre par cœur, c'est tellement un truc de débile. Vous devez apprendre par cœur jusqu'au baccalauréat. Toutes vos définitions, elles s'apprennent par cœur. Voilà.
Joël. Bah,
Moi, je souscris à tout ce que Barbara vient de dire. Moi, je vois avec ma fille, je ne sais pas pourquoi on dit que le par cœur n'existe plus, parce qu'elle continue d'apprendre par cœur. Alors, est-ce que c'est moi, avec ma vieille éducation, qui l'oblige à apprendre par cœur, ou est-ce que c'est exigé par les profs? Je ne sais pas, parce que pour moi, ça va de soi. Donc, quand elle a une évaluation, elle révise et elle apprend par cœur. Donc ça, je ne sais pas pourquoi je lis partout que le par cœur a disparu. Je ne sais pas d'où ça vient. Et puis ensuite...
L'histoire, si tu apprends par cœur, tu sais que tu as une bonne note. Enfin, ce n'est pas non plus...
Surtout, tu sais que c'est comme ça que tu pourras réfléchir. Tu ne peux pas réfléchir sans avoir un socle.
Ce que je vois sur les évaluations, en tout cas, qui sont données, je vois qu'on essaye à ce que l'élève... s'accapare des concepts, voilà, de manière globale et générale. Je vois très peu d'évaluations, comme moi j'en ai vécu, donc c'est vrai, avec des dates, c'est-à-dire Révolution française, deux petits points, tu dois juste mettre la date en face, etc. Donc des choses qui sont vraiment avec des gros repères. Parce qu'il me semble que tu n'avais pas besoin d'apprendre ton cours par cœur pour connaître ces repères. Donc il y avait toujours des gens qui avaient des 8 sur 20 ou des 7 sur 20. Par contre, tu leur disais 1789, ils te sortaient facilement Révolution française, 14 juillet, prise de la Bastille, enfin des choses qui étaient là et ancrées.
Des mécanismes.
Voilà, des mécanismes. La deuxième chose aussi que je peux constater, c'est un manque de curiosité. Mmh. Au-delà même de lire des livres, il y a aussi une sorte de un manque de curiosité de la part des jeunes, mais aussi même des adultes. Moi, je sais, par exemple, je vais souvent à la station Bastille parce que c'est là où est mon église. Et quand ma fille était petite, je lui disais, Bastille, c'est quoi? Parce que tu regardes la station de métro. Et donc, avec les noms de mes stations de métro, je l'apprenais. Puis en plus, à la station de Bastille, il y a des photos, il y a des tout. Donc, on s'arrêtait 2 secondes pour regarder, pour que je lui explique un peu le contexte, où est-ce qu'on se trouve, qu'est-ce que c'était là avant et tout. Donc, il y a aussi cette chose-là. Et puis, ce que j'ai constaté aussi, c'est la télé. Moi, par exemple, de mon temps, il y avait beaucoup de jeux télé, énormément de jeux télé. Aujourd'hui, les jeux télé, tu les retrouves sur France 3.
De culture générale, quoi, en fait, c'est ça.
Tu les retrouves... Et qui cartonne,
d'ailleurs. Oui, sur France 3, mais c'est vraiment cantonné maintenant au service public, à des heures où tu es encore à l'école. Ouais. Avant, c'était à la sortie de l'école.
Et surtout, tu n'avais pas beaucoup de chaînes, donc de toute façon, tu avais 1, 2, 3, donc tu n'avais pas le choix que de regarder des chiffres et des lettres.
À la sortie de l'école, tu avais beaucoup de jeux télé, j'avais les chiffres et des lettres, j'avais la roue de la fortune, ou même si c'était...
Pyramide.
Géopardie, il y avait énormément de jeux de télé, donc j'avais presque pas besoin de lire énormément, j'avais juste à m'asseoir devant la télé et apprendre des nouveaux mots parce qu'il y avait Annie Pujol qui tournait qui retournait les trucs, j'avais juste à regarder les chiffres et des lettres pour apprendre des nouvelles choses.
Donc en fait, ça te faisait réviser.
Il y a tout un univers qui a complètement disparu, et on se dit qu'il faut absolument rester sur il faut lire. Non, oui, il faut lire, mais il n'y a pas que la lecture, il y a tout un univers de culture qui a complètement disparu.
Jean-Loup.
Oui, moi je suis...
Est-ce que tout d'abord tu es surpris par ce résultat?
Alors, je ne suis hélas absolument pas surpris. Ça fait d'ailleurs des années que je décris des choses qui correspondent exactement à ce sondage et on me dit que j'exagère. Donc en fait, quand on dit qu'il y a un effondrement stratosphérique du niveau, il n'y a aucune exagération, il y a une description simple de la réalité. Ce n'est pas seulement en histoire, on l'a vu avec les récents tests internationaux, c'est dans toutes les disciplines. En français, en maîtrise de la lecture, de l'écriture et de la grammaire, en mathématiques, en sciences, en histoire. C'est un effondrement effrayant et global. Ensuite, en ce qui concerne l'apprentissage de l'histoire, moi, ça ne me surprend pas du tout. puisque je vois, déjà je regarde un peu ce qui se fait dans les manuels, etc. Je vois quand même énormément de jargon, je vois beaucoup de choses. On va demander à des élèves de terminale qui ne savent même pas mettre ENT à la troisième personne du pluriel.
Ouais. Mais, ils mettent un S.
On va leur dire, il faut faire une problématique, il faut avoir une méthodologie, soigner votre introduction. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, ça serait d'être capable d'écrire à peu près correctement et de maîtriser par cœur les grands repères chronologiques qui fixent le cadre. Et enfin, comme le dit souvent à très juste titre ma maman, enseigner l'histoire, raconter l'histoire, c'est avant tout raconter des histoires. C'est-à-dire qu'on a cherché à chasser, à éliminer l'anecdote, l'héroïsme, tout ce qui était haut en couleur, les histoires de guerre et les histoires d'amour, les exploits des uns et des autres.
Ça, c'est sûr,
on appelait aussi le roman national, mais qui peut concerner les autres pays. Tout ça a été éliminé.
C'est important, par exemple, un des meilleurs profs d'histoire juste, son nom me revient d'un coup, M. Rognan, je l'ai eu en terminale. Il commençait toujours le cours, justement, il attirait par l'anecdote.
Complètement.
Tu vois, par exemple, je me souviens de ses cours sur la Seconde Guerre mondiale, il attirait toujours par un petit fait, et puis ensuite, il partait de ce petit fait qui retenait l'attention, et on arrivait sur le
cours
magistral.
Et tout ça a été chassé, au profit d'études de documents, méthodologie, problématiques. Tout ce qui était, d'une part, le par cœur, alors c'est très bien que tu fasses apprendre à ta fille par cœur, mais d'une part, le par cœur et les grands repères, le grand cadre, on doit aller du plus général vers le plus précis,
et
d'autre part, l'anecdote.
Je vais être très méchante avec mes collègues, mais ce genre de méthodologie et cette absence de culture nécessaire pour entrer par l'anecdote, c'est ça qui permet aussi d'avoir des enseignants qu'on arrive à sortir du CAPES avec des notes d'admission qui sont de plus en plus basses. Donc, quand tu peux devenir prof d'histoire avec 8 au CAPES ou 10 au CAPES, il ne faut pas s'étonner que ça se répercute sur les élèves.
Un jour, c'est les profs d'histoire. 54% des profs d'histoire ne connaîtront pas la date de la Révolution française. Ça sera... Non, mais ça, c'est la prochaine étape.
C'est logique. Hein.
C'est valable dans toutes les matières, y compris la philo et les maths, etc. Ce n'est pas du tout spécifique
à
l'histoire.
La nouvelle génération des enseignants de philo.
De oui, mais je vois bien qu'on a de plus en plus
l'histoire, ça peut être passionnant à enseigner.
On a un parent d'élève.
Bon, les maths, je peux comprendre. Il y a beaucoup d'enfants qui peuvent se dire les maths, à quoi ça sert, etc. Mais l'histoire, ça peut être passionnant.
À enseigner,
c'est bien raconter.
À enseigner, c'est passionnant. Bah oui. Avec les programmes qu'on a, c'est déjà moins passionnant. Et honnêtement, on va se le dire sincèrement, avec les élèves qu'on a nourris aux réseaux sociaux, et quand sur une classe de 30, vous en avez à peu près, je ne vais pas mentir, sur une classe de 30, dans un CSP pas défavorisé, vous en avez vraiment 10 seulement qui comprennent exactement ce que vous dites. Eh bien, vous posez
Olivier, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour les GG, très bonne année.
Bienvenue et bonne année à vous aussi, Olivier. Vous nous appelez de Béziers, dans l'Hérault. Oui. Tiens, quelle météo ce matin à Béziers, qu'on sache un peu.
Alors, ce matin, il fait moins 4 en partant de chez moi et il fait très beau.
Très beau.
Il faut bien qu'il fasse froid.
C'est pas mal, froid et sec, c'est bien ça.
Alors, mon cher Olivier, justement, est-ce que vous vivez, vous-même en tant que parent d'élève, ce mauvais niveau en histoire, alors?
Ah oui, mais mauvais niveau en histoire, je dirais même mauvais niveau général, parce que l'histoire pour moi est liée avec le français, les matières principales, les mathématiques, et force est de constater que depuis des années, dans l'enseignement, je dirais que c'est passé limite au second plan. Quand on voit à l'heure actuelle, moi je vois mon fils écrire, parce que bon, maintenant c'est mon dernier qui est en seconde, je le vois rédiger ses devoirs, je pleure, j'ai les yeux qui saignent, l'orthographe étant tellement horrible, mais en même temps ils ont été biberonnés au langage SMS à apprendre des histoires de genre et tout le tralala, qui ne savent même pas compter, ils ne savent même pas écrire. Enfin, au bout d'un moment, quand on voit qu'à l'heure actuelle, quand même, on a 15% des élèves qui sont mauvais lecteurs, 5% des enfants de 16 ans qui sont dans l'illettrisme, enfin, il faudrait peut-être ressentir l'éducation, je veux dire, au bout d'un moment, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne.
Non, Olivier, le responsable in fine, c'est l'institution. Ouais. C'est l'institution qui accepte cette situation, qui laisse passer dans les classes supérieures. C'est le grand mensonge, et moi c'est ce que j'ai toujours dit à mes élèves et aux parents d'élèves, on vous ment. Quand on vous dit que tu peux passer de la 6e à la 5e sans savoir correctement lire un texte, on te ment, on est déjà en train d'obérer ton avenir. Donc c'est un mensonge qu'on fait aux parents d'élèves, aux profs, aux élèves, et ce grand mensonge-là, il est institutionnel.
Joël Lagosserie, et puis on revient vers vous, Olivier.
Olivier, quand il dit que c'est les SMS, j'y crois moyen, parce que par exemple, ma fille, bon là aujourd'hui elle a un portable, mais ça a été très tard, elle n'a pas envoyé de SMS avant au moins, je sais pas moi, peut-être ses 12 ans. Et pourtant, il y avait des difficultés sur l'orthographe. Moi, j'ai regardé un peu les cours qui sont donnés, qui étaient complètement différents de ce que j'avais. J'avais des exercices qui étaient un peu ceux du bled. C'est pour ceux qui ont connu le bled.
Oui, bah...
qui étaient tout bêtes, hein, mais qui étaient complétés par A ou par A. Donc A avec accent ou A sans accent. Complétés par O ou par O. Donc O-N ou O-N-T. Et en fait, j'ai eu des tonnes et des tonnes d'exercices comme ça qui m'ont permis de comprendre la mécanique de par quoi je remplace pour savoir si c'est A avec accent ou pas. Et je vois qu'à chaque fois, elle a ce souci-là, elle ne l'a plus. Donc, j'ai dû racheter un bled de mon côté et lui faire faire. Donc,
et pourquoi on n'utilise pas ces méthodes-là,
c'est simple. C'est très grave parce qu'en fait, ceux qui n'ont pas les parents pour faire ça, mais ils sont foutus. Et ça, c'est vraiment grave. Ouais.
D'où les inégalités à l'école.
Merci à Olivier d'avoir été
Non, mais pourquoi, par exemple, moi, j'aimerais savoir, Barbara, pourquoi ça, l'exemple est très bon, pourquoi ces méthodes simples, les méthodes du bled, qui marchent, pourquoi on a dit que ce n'était plus les bonnes méthodes?
Parce que c'est. C'est les pédagogistes des années 80, 90.
Mérieux, tout ça.
Tout ça. Et en plus, n'oubliez pas un point important, la grammaire et l'orthographe, c'est discriminant, parce que c'est quelque chose qui exclut les catégories populaires. Alors que je l'ai déjà dit ici, ma grand-mère est née en 1923, elle a appris à lire et à écrire de l'autre côté de la Méditerranée, dans des classes de 45. Elle n'a pas été plus loin que le certificat d'études, et jusqu'à la fin de sa vie, elle n'a jamais fait une faute d'orthographe. Et elle venait d'un milieu très pauvre, enfin populaire, et elle n'avait pas de père, etc. Donc moi, la sérénade des classes populaires, j'en ai ras-le-bol, parce que c'est un mépris pour les classes populaires. C'est l'école de la République, elle est là pour les classes populaires. Or, aujourd'hui, l'école de la République, elle sert d'abord les CSP++.
Parce que les autres classes ont les moyens de s'en sortir.
Et non seulement elle sert les CSP++, mais en plus, on a les parents sur le dos qui passent leur temps à pleurnicher que leur petit chéri, il n'a pas eu ce qu'il voulait.
Merci à Olivier de son témoignage à travers ses deux enfants. On va continuer d'évoquer cette problématique aujourd'hui. Un élève sur deux ne connaît pas la date de la Révolution française. Si on a un prof d'histoire-géographie au téléphone, au 32-16, c'est Léa qui nous appelle de Trappes, dans les Yvelines. Bonjour Léa.
Bonjour.
Vous êtes professeur de français.
Oui,
vous vouliez
français.
Intervenir dans cette discussion. Dites-nous alors ce que vous en pensez.
Sur le sondage, je ne sais pas, parce qu'on a fait le sondage en notifiant un pourcentage d'élèves, mais... Je ne sais pas après auprès de quels élèves ont été faits le sondage. Après moi, de mon expérience, je sais que le parcours dépend de l'endroit et du type d'établissement. Les problèmes que j'ai vus dans le parcours, par exemple, j'ai travaillé dans le privé.
Oui.
Le parcours était plus facile à faire que là où je suis actuellement, par exemple, dans le public un peu plus populaire.
Pourquoi c'est plus difficile chez vous?
Je vais être factuelle. Hein.
Allez-y.
Le relationnel avec les parents n'est pas le même. Par exemple, là, j'ai donné des devoirs de vacances. Pardon, je passe le bonjour à Joël.
Voilà, c'est, oui.
Je suis sa sœur.
Mais,
oui,
mais non.
Mais oui, j'étais.
Mais bon.
Attends, Léa, elle a la même voix que ma sœur.
Non. Parce que Joël me faisait des grands signes, je ne comprenais pas. Ah, c'est ta sœur.
Mais oui.
Comment ça va, Léa Dagosséry?
C'est fou,
très bien,
ça.
Merci.
Putain, vous êtes fort. Elle est Dagosséry, elles sont fortes.
Hein. Elle a fait le dans mon dos.
Et Barbara aussi, que j'ai
mais oui, coucou Léa,
gentil,
hein. Mais oui.
Mais je rappelle que les Dagosséry, ils sont 14, si tu veux. Donc,
mais non, en plus, la dernière fois, on a eu la meilleure amie de Joël.
Oui, non, oui.
Aussi, au 32-16.
Mais Léa a été convaincante pour à passer
joué,
à l'antenne.
Léa.
Bravo, Léa.
Ouais.
Oui, donc mais je disais que, bon, voilà. Je vais être honnête, moi, de mon expérience, après, ça fait 4 ans que j'enseigne, ça dépend des endroits et ça dépend des types d'établissements.
Mais alors, pourquoi il y a des réticences au parcours là où vous êtes?
Il y a des réticences au parcours selon le lieu. C'est que, par exemple, je vois bien que là, pour enseigner, quand j'enseignais, on va dire à Versailles ou vers chez moi, c'est vrai que les élèves, je leur donnais du parcours, ce qu'ils avaient à faire, ils ne questionnaient pas, ils faisaient. Là, il y a un esprit aussi plus contestataire avec les élèves, on va dire, que j'accepte, hein, mais il faut se justifier, ou même pour faire signer un devoir, il faut se justifier constamment. Voilà, sur les devoirs que j'ai donnés, par exemple, j'ai été atterrée de voir que sur Pronote, le logiciel de devoir, sur 30 élèves, il n'y en a que 13, généralement, qui cliquent sur le travail à faire.
Et les autres ne le font pas?
Non.
Mais
j'ai pris beaucoup de carnets,
parce qu'ils décident, ils n'ont pas envie de le faire, donc ils ne le font pas.
Bah, ils vont m'expliquer. Moi, la raison que j'ai constatée quand même, c'est que pour avoir après essayé autre chose, c'est-à-dire d'écrire directement aux parents, C'est pareil ouais. sur les parents. Il n'y en a eu que 15 sur je ne sais pas combien qui ont cliqué sur mon message. Je vous ai alerté sur le travail et sur les connaissances. Maintenant, la chose commune que j'ai vue aussi, moi, je trouve, c'est qu'on laisse... Mais ça, vous l'avez déjà abordé, ce sujet à l'antenne, c'est qu'on laisse beaucoup, beaucoup de champs aux parents, contrairement à notre enfance où Joël peut-être dirait la même chose. C'est que moi, ou même en tant que parent, mes parents ne viendront jamais contester un travail donné, par exemple. Ou questionner sur un travail donné. Moi, j'ai connu ça. J'ai eu des parents, notamment en première l'année dernière, pour le coup, c'était à Versailles, qui m'ont demandé pourquoi on étudiait, je demandais qu'on apprenne tel texte au bac, est-ce que ça servirait, pourquoi j'ai abordé Baudelaire alors que c'est Apollinaire qui est au programme. On pose beaucoup, beaucoup de questions, on est souvent remis en cause, et les élèves qui assistent à ça auront moins aussi l'automatisme d'apprendre. Et la dernière chose que j'ai remarquée aussi, c'est qu'on nous demande aussi beaucoup de faciliter le travail d'apprentissage. Ouais. Or, il me semble que pour qu'on ait envie d'apprendre par cœur et de travailler, il faut qu'on nous fasse comprendre que, ça c'est moi, après je suis peut-être à l'ancienne, c'est qu'il faut qu'on nous laisse entendre que travailler et atteindre ses objectifs, c'est dur.
Oui, c'est ça.
Or, on nous demande souvent de les aider, de ne pas faire trop prendre de notes, de faciliter, de numériser les cours pour ne pas qu'ils aient à noter. Et ça, ça ne donne pas envie d'apprendre par cœur parce qu'on met dans la tête qu'il y a une certaine facilité à avoir des apprentissages.
D'accord. Donc en
Alors
fait,
c'est... Il faut leur faire comprendre quand même que pour connaître le cours, il faut accepter de passer une heure ou 30 minutes devant son bureau, d'apprendre par cœur, de noter en classe, d'être attentif en classe. Et on ne peut pas toujours faciliter le travail. Par exemple, moi, la tablette, c'est pareil. Je n'aime pas travailler avec la tablette parce que c'est trop facile.
Ouais.
Voilà, je préfère qu'ils leur disent vous allez chercher
alors,
un
Léa,
CDI et voilà. C'est
pas Léa, il y a Jean-Loup Bonamy qui voulait réagir justement.
Mais j'ai juste une question, c'est en collège ou en lycée?
Les deux.
Les deux. Et dans les deux et sur les deux, vous constatez les mêmes comportements ou c'est mieux en lycée?
Le lycée, moi, c'était plus les parents. Les parents de première qui stressaient étaient agaçants, alors que moi, j'ai passé mon bac, ça s'est fait tranquillement. Mais je trouve que là, ils stressent.
Mais pourquoi ils sont agaçants? Parce qu'ils interviennent, ils vous disent en gros,
ils vont
faire ou pas faire.
Pour Parcoursup, ils vont stresser parce qu'ils ont peur qu'ils ne connaissent pas tous les textes au bac, alors qu'on leur facilite encore le travail, puisque nous, dans mon souvenir, moi, on me disait pas sur quel texte j'allais tomber.
Ah non,
moi,
ah bah non,
là, ils
c'était
savent.
Le principe.
Ben là, ils savent.
Mais bien sûr, tu sais d'avance. Ah bah alors, comment tu crois qu'ils ont 90% de réussite au bac?
Alors, c'est facile, c'est fastoche, comme on dit.
Mais tu ne peux pas conduire au baccalauréat quasiment 90% d'une génération, alors que quand tu vois les copies, ils ne savent même pas écrire correctement. Tu as la moitié des candidats au baccalauréat qui ne savent pas écrire correctement l'orthographe. Comment ça se fait qu'ils ont le bac? Ils ont le bac parce qu'on leur donne, parce qu'on les prévient, parce que nous, on nous dit de remonter les notes. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est un immense mensonge. Parce qu'à un moment donné dans la vie, le mensonge, il se termine. C'est-à-dire, alors, ça ne sera peut-être pas à la fac, parce que, hélas, j'ai des collègues à la fac qui m'expliquent que même à la fac, ça commence à lâcher. Mais à un moment donné, c'est peut-être dans le monde du travail, je ne sais pas quand c'est, mais le problème, c'est que l'immaturité que ça a créée chez ces jeunes, qui en plus vivent dans le monde parallèle des réseaux sociaux...
Le manque de frustration aussi.
Et qui pensent que le monde est né avec eux. C'est pour ça aussi que 1789, ça n'a pas d'importance, puisque le monde est né en 2010, en 2020, en 2000, voilà. Donc, là, l'autre souci... C'est un discours qui est souvent tenu par les profs, moi je trouve. Hein. C'est à partir du collège, il faut laisser l'élève travailler en autonomie. Hein. Ne vous mêlez plus trop de son travail, etc. Moi, je suis désolée, en tant que mère, je me mêle du travail de ma fille. Elle est en troisième, je regarde Pronote, je regarde qu'est-ce qu'il y a à faire. Je lui demande de me réciter ses leçons, etc. Ça crée du conflit, c'est pas toujours sympa à la maison, mais j'estime que je dois surveiller. Mais ça, il y a même
Barbara.
Des parents... Ouais, mais Léa, il y a des profs qui m'ont dit... Lâchez-la un peu, laissez-la tranquille, ne lui mettez pas trop la pression. Non mais je lui mets pas trop la pression.
C'est d'ailleurs que les enfants de profs réussissent mieux que les autres.
Et voilà, et moi j'ai plein d'élèves.
Parce que toi tu sais ce qu'il faut faire.
Voilà, et j'ai plein de parents à qui je dis, en quatrième, vous savez, vous devriez surveiller. Ah vous croyez, oui, parce que c'est vrai que depuis la sixième, je le laisse un peu faire parce qu'il est grand maintenant. Je lui dis, à 11 ans, il est grand.
Léa,
c'est un bébé.
Léa, juste une question. Parce que je regardais les commentaires aussi sous les articles concernant justement la matière histoire. Il y a, dans les commentaires, on voit qu'en fait, bon nombre d'élèves ne comprennent pas. C'est vrai ou pas, Léa? C'est-à-dire qu'ils ont même du mal à comprendre l'époque, à comprendre l'énoncé, à comprendre la structure du devoir et autres. C'est vrai ou pas, Léa?
ça peut arriver qu'un énoncé à double information puisse être difficilement compréhensible. Mais honnêtement, moi, je ne sais pas, bon, pour Barbara, excusez-moi, j'ai oublié le prénom de l'autre professeur.
Jean-Loup.
On est quand même amené à répéter plusieurs fois. Moi, je suis désolée, je répète quand même plusieurs fois l'énoncé.
Ouais,
avant
et même, Léa,
Léa,
est-ce qu'honnêtement, tu relis pas 10 fois ta consigne en te disant est-ce qu'ils vont vraiment bien comprendre?
Mais oui, parce qu'ils l'ont déjà fait de m'écrire pendant les grandes vacances sur Pronote. Madame, j'ai pas compris. Donc maintenant, voilà. Je leur dis, vous, avant que vous quittiez la classe, d'abord, vous notez sur l'agenda. Pas que Pronote, parce que voilà. Et surtout, vous me posez les questions. Parce qu'après, moi, les dimanches soirs, je réponds plus. Et ce que vous notez en histoire, on aurait pu le noter en français. Hein. Je compte plus le nombre d'élèves qui accordent plus les participes passés, qui conjuguent plus au présent, et qui aussi, quand même, le réflexe de me dire... On n'a pas vu ça l'année dernière.
Alors ah oui, ça pousse.
Je sais que si. Donc
Léa, merci de ce témoignage, merci. Léa. Merci d'avoir été avec nous. La bise donc à Léa Dagosseri. Tu peux dire un petit coucou à ta sœur.
Merci pour cette trahison d'appeler dans mon dos sans rien. Non, sans prévenir.
Bravo, t'as pas prévenu. Hein.
Le bleu lui va très bien.
Salut Léa, bise.
Jean-Loup, en terminale, tu as ce constat enfin,
alors,
au lycée ?
Alors oui, j'ai ce constat. Moi, j'ai un ressenti un peu différent de celui de Barbara. C'est-à-dire que moi, je suis, et année après année, donc ce n'est pas exceptionnel, année après année, je suis très content de mes élèves. C'est-à-dire que je trouve en fait que leur niveau est extrêmement faible. Comme à peu près tous les élèves de France, ils ne savent rien, mais... ils en ont conscience, ils en sont tristes, ils veulent apprendre. Quand on leur dit des choses, ça les intéresse. Donc moi, je suis plutôt content et je leur dis, vous ne savez rien, mais ce n'est pas de votre faute, vous êtes des victimes.
Exactement,
vous êtes des victimes, comme le dit le sociologue Jean-Pierre Le Goff, qui lui-même est de gauche, les victimes de 40 ans de gauchisme culturel qui a contaminé autant la gauche que la droite, c'est-à-dire toujours plus de laxisme, toujours plus de remise en cause de l'autorité et de l'autorité de l'enseignant. Et on a dit où non seulement, comme vous le disiez, les parents ne doivent plus se mêler, mais où également, on dit en quelque sorte aux enseignants, il faut que l'élève soit en autonomie, qu'il construise lui-même son savoir. Alors qu'on sait que ce qui marche, c'est un professeur qui sait, des élèves qui ne savent pas, et un professeur qui, de manière verticale, transmet le savoir et transmet avant tout de la connaissance et non pas de vagues informations ou des méthodologies fumeuses.
Mais Jean-Loup,
c'est ça qui a été démantelé.
Quel est le livre qu'a écrit Jean-Pierre Le Goff en 1992 ? La barbarie douce.
Bien sûr.
Et la barbarie douce, c'est comme le bouquin de Milner sur l'école, etc. C'est des bouquins qui, dans les années 90, dénonçaient le pédagogisme, etc. Et comme c'était des gens qui venaient de la gauche, on les a traités de social traîtres, on les a traités de traîtres, de réacs. C'était le fameux bouquin de Lindenberg, les nouveaux réacs, les Finkielkraut, les Le Goff, etc. Régis Debré qui a écrit aussi là-dessus. C'est des gens qui viennent de la gauche et qui vous disent « on vient de la gauche, on sait ». Moi, excusez-moi, dernièrement, je termine là-dessus. J'ai entendu Julien Drey. Et bras m'en tombe. Julien Drey fait partie de ceux qui ont été au pouvoir, parce que même s'il était conseiller, etc., qui ont pratiqué ça, qui ont créé cette déliquescence de l'école et qui maintenant tiennent un discours, alors vraiment pour le coup, genre de réac. Ah oui, c'est horrible, hein, l'école, on n'apprend plus rien, etc. Mais est-ce que ces gens ne se foutent pas de nous? C'est eux qui nous ont mis là-dedans.
C'était un défroqué,
oui,
Julien
Drey. Mais quand des Jean-Pierre Le Goff et des Régis Debré le disaient dans les années 90, on les a pointés du doigt et on leur a dit, vous êtes des fascistes. Et bien voilà, maintenant, là où on en est.
Non, la seule qui défend encore ça, c'est Najat Vallaud-Belkacem, par exemple.
Allez, Fabien est avec nous. Fabien, bonjour.
Elle nous a tué, bonjour. Les programmes.
Fabien des Bouches-du-Rhône, qu'est-ce que vous en dites, vous, alors, de ce niveau en histoire, notamment ?
Ben, écoutez, je suis plus ou moins d'accord avec tout ce qui a été dit, mais il y a un point aussi qu'on ne lève pas, je trouve, c'est l'absentéisme des profs, quoi. Moi, j'ai la grande, là, qui est ma belle-fille, qui est rentrée au collège cette année, et depuis la rentrée, là, sa prof d'histoire-géo qui est absente et qui est venue, je crois, en tout et pour tout, même pas moi, quoi. Et je trouve que ça, c'est de pire en pire. Même le petit qui est au primaire, c'est pareil. L'absentéisme, là, il est rentré à la rentrée là, des vacances de Noël. Sa prof, son instinct n'était pas là. Elle a été remplacée, donc heureusement. Mais voilà, je trouve que l'absentéisme est vraiment récurrent. Depuis le mois de septembre, à la rentrée du collège, la grande, elle a eu au moins 5 profs absents, je crois.
Ah oui.
Et puis, plus globalement, les moyens qu'ils mettent donc, dans... une question nationale, je trouve que c'est de pire en pire, quoi. De pire en pire.
Ouais. C'est très variable, hein, parce que moi, je vais vous dire, par exemple, ma fille qui est dans le public aussi, jamais d'absence. Les profs sont jamais absents. Moi, je suis très peu absente. Après, c'est une question... Enfin, voilà. Et dans le collège où je suis, Il n'y a vraiment pas beaucoup d'absence non plus, parce que je
cela
vois
dit,
c'est les remplacements. Quoi. Je veux dire, ouais. L'absence, ça peut arriver, mais
les remplacements, les brigades de remplacement, c'est prévu au niveau du primaire.
On n'arrive pas à les embaucher.
Mais les brigades de remplacement en collège, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, et on voit bien que la formule qui a été lancée par monsieur, c'était lancée par Blanquer et mise en œuvre par, par monsieur Attal depuis la rentrée, là, les cours, le remplacement, ça ne fonctionne pas. Parce que le prof de maths ne peut pas remplacer sur son créneau le prof d'histoire, qui ensuite rattrapera le créneau du prof de maths. Ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas au collège. Et là, ça n'est pas possible.
RMC, les grandes gueules.